Méditation sur le second livre des Chroniques. Chapitre 1 à 9. Le règne de Salomon. Le second livre des Chroniques continue le premier sans transition. Il ne forme primitivement qu'un seul récit dans les manuscrits hébraïques. Nous avons fait précédemment la même remarque dans le second livre des Rois au sujet de ces divisions artificielles qui ne font pas partie de la parole inspirée. De fait, le récit des Chroniques est continu jusqu'à la fin du règne de Salomon, de Chroniques 10, et si l'on cherche une division morale de notre sujet, ce n'est qu'au chapitre 11 qu'elle devrait proprement être introduite. Rappelons ici une vérité, déjà maintes fois mentionnée dans le premier livre, c'est que Dieu nous donne dans les Chroniques, sous une forme typique, un aperçu de ses conseils au sujet de la royauté du Christ, conseil préfiguré dans l'histoire de David et de Salomon. Salomon lui-même symbolise le règne futur de sagesse et de paix inauguré par la venue du Seigneur. C'est pourquoi, comme nous l'avons signalé dans l'histoire de David, en 1 Chronique, le règne de Salomon n'offre point de manquement dans les Chroniques, et même avec beaucoup d'attention, on ne pourrait y découvrir la moindre allusion aux fautes du roi. Nous avons vu dans le livre précédent comment Salomon fut élevé sur le trône de son père avant d'être établi sur son propre trône. Ces deux faits nous parlent très clairement du royaume céleste actuel de Christ et de son royaume terrestre qui est encore à venir. Le récit qui s'ouvre devant nous va nous présenter ce dernier, et nous n'y trouverons pas, comme dans le livre des Rois, un souverain responsable et faillible, mais la figure la plus parfaite possible d'un gouvernement de sagesse et de paix administré par le roi des conseils de Dieu. Chapitre 1er. Un roi selon les conseils de Dieu. On ne peut assez faire ressortir, au début de ce livre, que le règne du Salomon des Chroniques a un tout autre caractère que celui du Salomon des Rois. Sa justice, exercée en jugement envers les ennemis de son père, Adonija, qui s'était opposé à David, Shim'i, qu'il avait insulté et bafoué, Joab, dont il avait supporté les violences et l'injustice sans pouvoir les réprimer, tout cela est omis dans les Chroniques, voir 1 Roi chapitre 1 et 2. L'épisode des deux femmes prostituées, 1 Roi 3 versets 16 à 28, est aussi complètement passé sous silence, car si cette scène nous montre la sagesse de Salomon, elle nous la montre au service de la justice pour gouverner équitablement. Le roi ne porte pas l'investigation plus loin et ne reprend ni ne retranche même la plus coupable de ses prostituées. Les Chroniques ne nous présentent pas le règne de Salomon sous les caractères que nous venons de mentionner. Il est avant tout le règne de paix auquel la sagesse préside. Il n'en est pas moins vrai que pendant le millénium, le méchant sera chaque matin retranché du pays et que la prostitution n'y sera ni tolérée ni même nommée. Mais la paix règnera, et c'est le sujet dont les premiers chapitres de ce livre nous entretiennent. Dès les premiers mots de notre chapitre, au verset 1, Salomon nous est présenté comme s'affermissant lui-même dans son royaume, tandis qu'en 1 Roi 2, verset 46, le royaume fut affermi dans sa main après le jugement de tous les ennemis personnels de David. Salomon s'affermit ici de sa pleine autorité personnelle, mais il n'en reste pas moins l'homme dépendant, car s'il ne l'était pas, il ne serait pas le type du vrai roi des conseils de Dieu. Au psaume 2, il est dit « Demande-moi, et je te donnerai pour possession les bouts de la terre ». C'est pourquoi nous trouvons dans notre passage « Et l'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'agrandit extrêmement ». Aussi longtemps qu'il conserve le royaume, le Seigneur reste l'homme dépendant. Quand il en aura terminé l'administration, il le remettra fidèlement entre les mains de celui qui le lui a confié, et alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses. 1 Corinthiens 15, verset 28. Aucun empire terrestre aura-t-il jamais été semblable à ce règne merveilleux où pendant 1000 ans, sans une défaillance, sans un déni de justice, sans un amoindrissement de la paix, le Christ régnera sur son peuple terrestre et sur toutes les nations. Habituons-nous, chers lecteurs chrétiens, à considérer le Seigneur ainsi pour lui-même et non pas seulement pour les ressources qu'il fournit à nos besoins. C'est la contemplation la plus élevée à laquelle nous soyons appelés, car nous y sommes placés, pour ainsi dire, en la compagnie de notre Dieu pour trouver nos délices dans les perfections de cette personne adorable. Combien sont nombreux les passages des Écritures où nous est révélé, non pas ce que nous possédons en vertu de l'œuvre de Christ, mais ce que Christ est pour Dieu en vertu de ses propres perfections. Dieu ouvre le ciel sur cet homme et dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Et quand il est obligé de lui fermer le ciel au moment où il expie nos péchés, il dit « Mais toi, tu es le même, tes années ne finiront point. » Et encore « Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à perpétuité. C'est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne. Tu as aimé la justice et tu as haï la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. » En vertu de la perfection de son obéissance et de son abaissement, Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Cet homme est le premier-né de toute création. Il a toutes les gloires et toutes les suprématies. Colossiens 1, verset 15 à 20. C'est parce qu'il laisse sa vie afin qu'il la reprenne que le Père l'aime. En tout cela, nous ne trouvons rien de ce qu'il a fait pour nous. Mais nous, en vertu de son œuvre accomplie, nous sommes rendus capables de nous intéresser à lui et à toutes ses perfections. Cultivons cette connaissance. Sans doute, pour notre âme, le trait par excellence de ce caractère adorable est résumé dans ce mot « Il m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi ». Quelque connaissance que j'acquière de lui, elle me ramène toujours à son amour. Ainsi, quand il nous est présenté comme le prince des rois de la terre, nous nous écrions « À celui qui nous aime. » Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il est en lui-même est une source inépuisable de joie pour le fidèle. Rien ne le sort davantage de son égoïsme naturel et des mesquines préoccupations d'ici-bas. Il a trouvé dans un objet parfait, avec lequel il est en relation intime et immédiate, la source de son bonheur éternel. Au verset 2 à 6, nous avons la scène de Gabaon, mais sans les tâches qu'il a déparées en 1 roi 3, versets 1 à 4. Dans notre passage, le « seulement » qui marque un blâme a disparu. Seulement le peuple sacrifié sur les hauts lieux. Seulement Salomon offrait des sacrifices et faisait fumer de l'encens sur les hauts lieux. Ici, la scène est légitime, si je puis m'exprimer ainsi, et Gabaon n'est plus le principal haut lieu, chapitre 3, verset 4. Il est au contraire le lieu où était la tente d'assignation de Dieu que Moïse, serviteur de l'Éternel, avait faite dans le désert, et l'autel d'airain qu'avait fait Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, était là devant le tabernacle de l'Éternel. Deux Chroniques 1, versets 3 à 5. Pas l'ombre d'un blâme. Salomon va sacrifier sur l'autel, symbole de l'expiation, où le peuple pouvait rencontrer son Dieu. Y avait-il là quelque chose à reprendre? Nullement. Sans doute le lieu n'était que provisoire en attendant l'érection du temple. Sans doute aussi le trône de Dieu, l'arche ne s'y trouvait pas, car elle était désormais établie dans la cité de David. Mais, dans les chroniques, Salomon vient à Gabaon avec son peuple inaugurer le règne de paix que Dieu pouvait introduire en vertu du sacrifice. C'est en effet, comme nous l'avons vu, du règne de paix, bien plus que du règne de justice, que le second livre des Chroniques nous entretient. Au verset 7 à 12, Salomon demande la sagesse à Dieu, et ici encore notre récit diffère totalement de celui des rois. 1 roi 3, versets 5 à 15. Salomon n'est pas dans notre passage un jeune garçon qui ne sait pas sortir et entrer. Sans doute le premier livre des Chroniques le mentionne comme jeune garçon, mais nous l'avons fait remarquer en étudiant ce livre, au point de vue typique, sa jeunesse correspond à la position occupée par Christ dans le ciel, sur le trône de son Père, avant l'inauguration de son royaume terrestre. Dans le livre des rois, Salomon est ignorant et n'a pas le discernement entre le bien et le mal. Chapitre 3, verset 9. Dans les chroniques, cette défectuosité a totalement disparu. Le roi dit avoir besoin de sagesse pour sortir et entrer devant le peuple et pour le gouverner. Il s'adresse pour cela à celui qui l'a fait roi et dont il dépend entièrement. Telle sera aussi la relation de Christ, homme et roi, avec son Dieu. Mais ce qui est plus frappant encore, c'est que dans notre passage, la question de la responsabilité est complètement omise, à l'opposé de 1 roi 3 verset 14. « Si tu marches dans mes voies, gardant mes statuts et mes commandements, dit Dieu, je prolongerai tes jours. » Dans les chroniques, la responsabilité de Salomon n'est mentionnée qu'une seule fois. 1 Chronique 28 verset 7 à 10. Pour représenter la dépendance du Christ comme homme et nullement avec la supposition qu'il puisse être trouvé en faute. Tout autre est le livre des rois. Voyez 1 roi 3 verset 14, 1 roi 2 verset 2, 6 et 9, 1 roi 6 verset 11. Remarquons encore qu'en 1 roi, Dieu dit à Salomon, « Parce que tu as demandé cela, voici, je t'ai donné un cœur sage et intelligent. » Chapitre 3 verset 11 et 12. En 2 chroniques, Dieu lui donne la sagesse et la connaissance parce que c'était cela qui était dans son cœur. Type de Christ, il reçoit ces choses comme homme, mais son cœur n'a pas besoin d'être façonné pour les recevoir. Nous ne cesserons de voir à chaque pas de nouvelles preuves de la merveilleuse exactitude avec laquelle la parole inspirée poursuit son dessein. Versets 14 à 17. Dans le fait que Salomon amassa beaucoup d'argent et d'or à Jérusalem, et que ses marchands tiraient pour lui des chevaux d'Égypte et en procuraient de la même manière à tous les rois des Héthiens et aux rois de Syrie, on a cru voir une preuve de l'infidélité de Salomon aux prescriptions de la loi en Deutéronome 17, versets 16 et 17. L'étude des chroniques fait repousser une telle interprétation. L'Égypte est ici tributaire de Salomon, qui la traite d'une manière équitable. Il fait profiter les nations étrangères des mêmes avantages et il en sera ainsi sous le règne futur de Christ. La même remarque s'applique, comme nous le verrons au chapitre 8, verset 11, à la fille du Pharaon.